Et ce que nous dit ce courrier, c'est que la détermination, là je cite, hein, de l'État à voir ce projet réalisé est intacte et que les travaux ne s'engageront qu'une fois les recours contre le projet seront jugés. Alors ça, c'est ce qu'avait promis le gouvernement. Alors voilà, après la mort de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivens, que tout le monde compare à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ces déclarations sonnent comme une énorme provocation. Autre info, début octobre, alors toujours par rapport à Notre-Dame-des-Landes, le Canard Enchaîné avait publié un article où il compare le permis de construire de l'actuel projet avec les demandes de la DGAC. Alors la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, ceux qui ont fortement, entre autres, poussé pour qu'il y ait un nouvel aéroport. Et alors le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait sous-dimensionné par rapport à l'actuel aéroport de Nantes, ce qui est quand même assez rigolo. Il y aurait 28 comptoirs d'enregistrement dont 12 simplifiés. À Nantes aujourd'hui il y en a 34, et ce qui est déjà moins que celui à Nantes, et la DGAC lui en réclamait 40. Alors bon, on est quand même loin du compte. Alors quand on sait voilà, que ce projet de l'aéroport était sa justification, c'est-à-dire qu'il était bien trop petit et bien trop sous-dimensionné par rapport au trafic aérien, quand même là, ils ont un peu l'air ridicules. Mais ça ne vous empêche pas de faire des déclarations comme ça. I wish you were dead. I wish you all were dead. Alors, dernière actu. En bref, la police craque. Suicide en haute dans la police nationale. Il y aurait en moyenne 42 suicides par an dans les rangs de la police nationale. Mais début novembre de cette année, il serait déjà 46 à s'être suicidé. Alors, Philippe Capon, le porte-parole d'une sa police, nous déclare la gorge nouée. Que les flics en ont marre d'être pointés du doigt, qu'à chaque réunion de famille, il y a toujours, et là je cite, hein, quelqu'un pour les insulter, et que depuis la mort de Rémi Fraisse, c'est encore plus difficile pour eux. Dans la rue, des inconnus les traitent de tueurs de manifestants. Les policiers n'en peuvent plus d'être stigmatisés, montrés du doigt, de voir leur travail dénigré. Bon, c'est un peu dingue quand même, à l'entendre parler, on a un peu l'impression qu'ils dénoncent les contrôles aux faciès, mais pas du tout. En 2014, il y avait 143 600 fonctionnaires de la police. Si on déduit les 46 suicidés, ça fait 143 554 flics. Ça fait encore un paquet. Buried underground, rotting, devoured by maggots. I wish you were dead. I wish you all were fucking dead. Alors, eh ben, on va continuer par sur la police et on revient sur la mort de Rémi Fraisse. On va juste faire un tout petit point sur les versions. Que tiennent les gendarmes sur ce qu'il s'est passé ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en quelques jours dans les médias, les médias nous expliquaient les circonstances de sa mort et on avait à peu près une version par jour différente. Et bien sûr, les médias tiraient ces informations des déclarations du procureur. Alors, au total, trois versions différentes ont été tenues. Alors, premier scénario évoqué, là, c'était au tout début, là, quand le procureur réagissait à chaud. Il évoque des affrontements qui ont eu lieu dans l'obscurité et vers 2h du matin, les gendarmes découvrent par hasard le corps de Rémi Fraisse. Bon, c'était à la limite s'ils n'étaient pas en train de cuire des champignons pendant leur pause. Deuxième version, les gendarmes reconnaissent qu'ils ont tiré, puis ils ont vu une personne tomber à terre à une cinquantaine de mètres d'eux, puis ils ont appelé leur hiérarchie pour savoir quoi faire, puis ensuite ils auraient porté secours à Rémi, mais auraient constaté rapidement qu'il était mort. Et la dernière version tenue par les gendarmes, c'est après avoir tiré, ils se sont précipités sur Rémi pour lui porter secours, malgré une pluie de projectiles. Alors là, comme ça, ils insistent bien sur le fait que, comme ça, s'il n'y avait peut-être pas eu la pluie de projectiles, ils auraient pu intervenir plus tôt, et lui ont prodigué les premiers secours, mais n'ont pas réussi à le réanimer. Et c'est bien sûr cette dernière version qui sera la version officielle.
Et on va maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, où en Pennsylvanie plus particulièrement, où l'État de Pennsylvanie a fait voter un texte. Bon, c'est un petit peu, on s'en est pas rendu compte tout de suite ici au Canu Info parce que c'était le 15 octobre dernier. Un texte qui a été voté en procédure d'urgence. La loi s'appelle Relief Act Revictimization. Et elle prive les prisonniers de Pennsylvanie de leur droit d'expression, surtout à propos de leur condamnation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de parler de ce qui les a amenés à être condamnés. Alors pourquoi cette loi, me direz-vous, et pourquoi en procédure d'urgence? Eh bien, c'est à cause de Mumia Abou-Jamal. Mumia Abou-Jamal, la voix des sans-voix, journaliste de profession, etc. etc. 20, bientôt une trentaine d'années dans le couloir de la mort. Et une nouvelle fois, l'État fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire taire ce journaliste. Ah, c'est ça, maintenant, il n'est plus dans le couloir de la mort. Il est en prise. Il est condamné à la prison à vie pour avoir buté un flic alors qu'il est, on ne sait toujours pas si c'est lui ou pas. Bref. Pour revenir à ce qui se passe maintenant, un représentant républicain de l'État de Pennsylvanie a fait voter ce texte donc le 15 octobre en procédure d'urgence, et ce texte donc interdit aux prisonniers de parler. Alors officiellement, il s'agit de protéger les victimes, parce que pour des victimes de criminels, ça serait insupportable de savoir que les criminels, eux, continuent à s'exprimer. En réalité, ce truc-là a été fait spécialement à cause de Mumia, disais-je, parce que ce qui s'est passé, c'est que début octobre, il a pu tenir un discours, alors par téléphone, bien sûr, lors de la remise des diplômes universitaires au Goddard College, dont il avait suivi les cours par correspondance. Et en fait, c'est les étudiants de l'université en question qui avaient choisi Mumia pour prononcer le discours. Donc l'État de Pennsylvanie, hyper énervé, a du coup, c'est ça, écrit une loi et l'a fait voter dans la foulée. Donc la loi est passée pour interdire à tous les prisonniers de Pennsylvanie de s'exprimer. Alors il faut bien dire que la Pennsylvanie, c'est quand même un des pires États des États-Unis en termes de politique carcérale. La Pennsylvanie compte 5000 condamnés à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle, parmi lesquels, attention, on compte 500 enfants. En Pennsylvanie, il y a 500 enfants qui sont condamnés à vie et qui sont en prison, là. Et puis toute cette politique est d'une efficacité, bien sûr, toute cette politique ultra répressive en termes de prison est bien sûr ultra efficace, puisque la Pennsylvanie est la ville américaine où le taux de criminalité était le plus élevé, en tout cas pour l'année 2013. Donc voilà, tout ça montre qu'ils ont bien raison de continuer dans la même voie. Et alors quand même, pour l'instant la loi est votée et puis elle devrait être promulguée dans les jours qui viennent. Après, il reste à savoir s'il va réellement tenir, parce qu'aux États-Unis, il y a cette histoire de premier amendement de la Constitution, qui est l'amendement sur la liberté d'expression, qui est un truc avec lequel l'Américain ne rigole pas. Cette histoire de premier amendement, là, c'est hyper fort. Donc c'est la liberté d'expression et le fait d'être prisonnier, il n'y a pas de raison que ça enlève cette liberté d'expression. Donc il se fait que cette loi veut peut-être finalement être inconstitutionnelle. Bon, enfin, en tout cas, pour l'instant, elle est là, quoi.
Alors, Lyon est la ville où les transports en commun sont les plus chers en France et se situe même 19e sur un comparatif de 60 villes dans le monde. Alors, les transports en commun sont moins chers, sont moins chers à Lyon, pardon, je me retrouve dans mes notes, à Lyon qu'à Paris, par exemple, Madrid, Rome, Bruxelles, si on prend comme exemple les capitales européennes. Et malgré tout ça, début janvier 2015, il va falloir s'attendre à une hausse des tarifs de 4,8%. Et ça, le Citral n'a pas honte avec ça de nous faire des campagnes de pub contre la fraude intitulée, j'imagine si vous êtes baladé un peu en ville, vous avez pu les voir placardés sur les bus et tout, la fraude, on a tous à y manquer avec ces trois messages. Cette année, 10% des voyageurs empêcheront l'achat de 4 nouvelles rames de tram. Aujourd'hui, 70 000 voyageurs empêcheront l'achat d'un nouveau bus pour votre ligne. Cette année, un voyageur sur 10 empêchera l'achat d'une nouvelle rame de métro. Voilà, donc comme je le disais, le tout placardé sur le métro, tram et bus. Avec, à côté de ce message, je ne sais pas si vous avez fait attention, un petit miroir comme ça, en papier adhésif, pour que vous puissiez vous regarder un peu en face d'une glace, hein, vous fraudeur, et voir à peu près quelle gueule vous avez. On rappellera quand même que Rivalta, éternel président du Citral, le Citral, on le rappelle, c'est ceux qui gèrent le réseau TCL à Lyon, a été condamné à rembourser 108 000 euros qu'il avait détournés au Citral entre 2002 et 2005. Voilà, alors avec 108 000 euros, on ne sait pas si ça fait un bus, un tram ou un métro, mais c'est déjà pas mal.
Cette chanson, je l'ai écrite l'année dernière. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir qu'elle sera chantée par la jeunesse partout. Parce qu'enfin, la jeunesse a compris qu'elle doit se lever pour prendre les clés de son destin en main. Au bien. Et cette chanson-là, elle s'appelle ce président-là. C'est une petite leçon, hein. Ce président-là, ce président, il faut qu'il parte et il partira. Comment ? Ce président-là, ce président, il faut qu'il parte et il partira. constitution sont les éléments qui nous garantissent une vraie démocratie. Ça ne sert à rien d'avoir une constitution qu'on viole tout le temps. Et encore une fois, on va le dire, ceux qui vont toucher à l'article 37, ils vont manger leur totem. Ils vont toucher à l'article 37, ils vont manger leur totem. Combien? On ne peut pas céder des autres pouvoirs. Non, ce n'est pas le royaume aussi avec un Moro là-bas. C'est l'État burkinabé avec des institutions qu'il faut respecter. Combien? Combien? Est-ce que vous êtes prêts? Ce président, ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, ce président, il faut qu'il parte.
Et oui, c'était Sam Skalodja en concert à Ouagadougou au printemps 2011. Parce que la révolution qui arrive maintenant n'est pas sortie de rien du tout, et qu'en 2011 il y avait eu au Burkina Faso un sacré énorme mouvement social qui avait commencé avec la mort d'un jeune qui avait été arrêté par les flics et puis qui avait été tapé en prison, que les flics avaient laissé ressortir et qui était mort quelques jours après. Là-dessus, énorme mouvement de protestation comme on pourrait en avoir dans des pays européens comme la France ou l'Angleterre. Et sauf que là, ça avait duré des mois, que les partis politiques avaient été bien à la traîne, les partis politiques d'opposition, mais voilà, par contre, tout ce qui était syndicats et différentes organisations de la société civile avait été assez efficace. Il faut savoir que le Burkina Faso, c'est un des rarissimes, peut-être le seul pays d'Afrique subsaharienne qui a jamais eu de parti unique. Non pas que les présidents n'aient pas essayé les uns après les autres de l'instaurer, mais parce que le peuple burkinabé a toujours empêché ça, donc depuis l'indépendance. C'est aussi un pays qui a une presse complètement impressionnante, une presse avec une liberté de ton que nous en France on pourrait tout à fait lui envier, c'est-à-dire que des journaux qui sont des journaux réellement achetés, quoi. Enfin, je voudrais pas dire que c'est QFD et personne l'achète, mais disons des journaux avec un pourcentage de lectorat beaucoup plus large que ça, et qui ont des discours extrêmement, je ne sais pas comment les qualifier, mais extrêmement indépendants vis-à-vis du pouvoir, au point que parfois il y a des journalistes qui meurent, hein, comme le fameux Norbert Zongo qui a été tué dans les années 90 au moment où il enquêtait sur des histoires qui concernaient le frère du président Compaoré. Et voilà, bon, un jour il s'est retrouvé canardé et sa voiture cramée et son corps cramé dans sa voiture. Et voilà, mais en attendant, ça n'a pas empêché les journalistes de continuer à faire leur boulot avec un sérieux et une sorte de d'indépendance d'esprit et de plume qui sont sacrément respectables. Alors, en tout cas, aujourd'hui, Blaise Compaoré, donc le qui était jusqu'à la semaine dernière le plus ancien président en place sur la planète, qui était au pouvoir depuis 27 ans, a enfin dégagé. Il a dégagé dans la journée de vendredi. Et alors, où on en est quelques jours après? On en est que, pour l'instant, il semble que ça soit l'armée qui dirige ce qu'ils appellent encore la transition démocratique, ce qu'ils risquent d'appeler longtemps la transition démocratique. Et donc, toute la question est de savoir dans quelle mesure l'armée va la diriger longtemps, par contre, ou pas. Les manifestants demandaient un ex-militaire en demandant que ça soit lui qui vienne diriger. Et puis, bon, en fait, non, ça n'a pas marché. Ça a été un autre gars qui était le chef du régiment de sécurité présidentiel, qui s'appelle le lieutenant-colonel Zida. Et donc, c'est lui, pour l'instant, qui dirige cette soi-disant transition démocratique. Le régiment de sécurité présidentielle, il faut savoir que c'était pas exactement des amis, c'était un peu les troupes d'élite qui devaient protéger le président. Alors voilà, après, l'armée burkinabé, c'est un truc un petit peu compliqué. Il faut savoir que Thomas Sankara, qui a été un peu le président aimé du peuple et aimé de nous, on pourrait dire, c'est plus ou moins le Salvador Allende de l'Afrique, que du coup Thomas Sankara lui-même était un militaire. Et que l'armée burkinabé, c'est un petit peu ci, un petit peu ça. En tout cas, c'est pas exactement comme si chez nous l'armée prenait le pouvoir. Ça veut pas forcément dire que c'est directement un coup d'état fasciste. Mais bon, là en l'occurrence, c'est le chef du régiment de sécurité présidentielle. C'est vraiment pas très engageant. Voilà, moi j'ai chopé sur ce site qui s'appelle lefasso.net, qui est un des multiples sites d'information burkinabé. J'ai chopé ce petit article, en tout cas une partie de cet article qui était très très long et qui a été publié aujourd'hui, mais il semble qu'il ait été écrit samedi parce qu'il parle de, à un moment il parle du départ du président en disant hier. Et ma foi, je vais vous le lire plus ou moins et commenter plus ou moins. Et donc l'article s'appelle « Rendons aux civils ce qui est aux civils ». Blaise Compaoré a été contraint de quitter le pouvoir par un soulèvement populaire que l'opposition démocratique et le mouvement citoyen ont suscité et encadré pour parvenir à ce premier objectif. Les sacrifices ont été lourds et le nombre élevé de victimes témoigne de l'acharnement mis par l'ex-président et le CDP, qui était le parti de Compaoré, donc leur acharnement à vouloir conserver le pouvoir. Le sang versé par ceux qui ont eu le courage suprême d'affronter les hommes de main de l'ex-président, issu notamment du RSP, donc du régiment de sécurité présidentielle, dirigé par Diène Déré et les siens. Alors Diène Déré, c'était aussi, c'était en réalité le chef d'état-major. Et donc lui, il fait partie du comité des militaires qui a décidé que maintenant le pouvoir que la personne qui dirigerait la transition démocratique serait ce lieutenant-colonel Zida. Donc c'est un peu la même bande, quoi. Le sang versé par ceux qui ont eu le courage d'affronter les hommes de main de l'ex-président issu notamment du RSP dirigé par Diène Déré et les siens nous impose non seulement un devoir de mémoire mais surtout un devoir d'action républicaine, car il serait intolérable que ces morts l'aient été pour que rien ne change en profondeur dans notre pays. Blaise Compaoré est parti, mais il faut garder à l'esprit que la situation reste critique et que rien n'est encore gagné. Atteindre un objectif même majeur, donc le départ du président, ne signifie pas que la guerre soit gagnée. Le premier constat, c'est que l'opposition démocratique, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, a toujours eu un temps de retard sur les événements. Alors c'est ça, il faut savoir qu'il y a des partis politiques au Burkina, hein, mais un peu comme dans plein d'endroits, les partis politiques d'opposition, on a quand même un petit peu l'impression que c'est des gens qui cherchent à gouverner à la place des gens qui gouvernaient jusque-là. Et du coup, vraiment, en particulier ce parti qui s'appelle le Parti Sankaris, là, qui, comme ça, Sankaris, ça fait un nom qui pose un peu quelque chose et ça pourrait être sympathique. En réalité, c'est le PS. Et le chef de ce parti qui s'appelle Benewende Sankara, puisqu'il y a quand même plein de monde au Burkina qui s'appelle Sankara, ça ne veut pas forcément dire qu'il est de la famille de l'ancien président. Lui, c'est un opposant qui a juste envie d'être président à la place du président, mais c'est pas forcément lui qui va changer grand-chose. Donc là, ce qu'écrit le journaliste, c'est le premier contrat, c'est que l'opposition démocratique, donc les partis, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, a toujours eu un temps de retard sur les événements. Elle a été comme surprise par la rapidité avec laquelle la situation a évolué le 30 octobre, donc vendredi dernier, et n'avait pour ainsi dire rien à proposer pour éviter que ne s'installe le vide. Car voilà le plus grand des dangers actuels, le vide, dont ni les institutions démocratiques ni le peuple ne peuvent se satisfaire, tant il laisse la porte ouverte à tous les opportunistes avides, à ceux qui viennent d'être chassés du pouvoir, de s'accaparer le pouvoir vacant par tous les moyens, notamment la ruse en passant par le coup de force militaire. Enfin, vous allez voir petit à petit là que l'article, je le reprends pas en entier à mon compte. Il y a des trucs intéressants dedans. On n'est pas forcé d'être d'accord avec tout, mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que les gens réfléchissent à la situation. Et j'ai pris cet article parmi d'autres que j'aurais pu prendre qui disaient pas tous forcément la même chose. En particulier dans la presse burkinabé, il y a vraiment en ce moment une sorte de discussion un peu gigantesque sur la légitimité de l'armée à assurer la transition démocratique, et si c'est l'armée, qui à l'intérieur de l'armée serait légitime pour ça, et qui sont des discussions assez intéressantes vu la situation, hein, parce que bon, bien sûr on peut se dire dans l'idéal l'armée non jamais. Après, vu la situation au Burkina et le fait que de toute façon ils y sont, les discussions valent le coup. Le second constat, poursuit l'article, c'est que le mouvement citoyen a réellement été en pointe sur le terrain pour affermir la détermination du peuple et déstabiliser les bases du régime par des actions civiques d'un grand courage. Cette dynamique a propulsé le mouvement citoyen au devant de la scène, le conduisant à s'impliquer politiquement dans la situation de vide qui prévaut depuis le départ de Blaise Compaoré, au point de sembler damner le pion à l'opposition démocratique. Une position inédite qui n'est pas sans risque, au regard de la nature et de la légitimité des organisations censées représenter la société civile, pour faire prévaloir un point de vue large et consensuel. À terme, le mélange des genres pourrait être porteur de plus d'inconvénients que d'avantages, et il convient que chacun reprenne rapidement la place et le rôle qui lui reviennent. Le troisième constat, c'est que le vide créé par le départ de Blaise Compaoré a immédiatement placé l'armée dans le rôle d'ultime recours pour faire face au chaos, qui a parfois été appelé à le faire par les manifestants eux-mêmes. Pourtant, la position de l'armée est sujette à caution, car les balles qui ont tué le 30 octobre ont été tirées par certains de ses membres. A noter que l'essentiel des hauts gradés de l'armée doivent leur galon et leur poste au binôme Compaoré-Diendéré, donc le Diendéré, le chef de l'état-major, et à leur régime militaire pseudo-démocratique. Les intérêts corporatistes dans la gestion du pouvoir politique ne s'accommodent pas vraiment d'un régime dirigé uniquement par des civils. L'armée doit faire partie du processus de transition démocratique qui s'ouvre, mais elle doit le faire selon le rôle qui est le sien, dans une nation républicaine, et sans jamais que la force armée dont elle dispose soit un moyen de bloquer l'expression de la volonté populaire. Ils se trompent, ceux parmi les militaires, qui pensent qu'ils pourraient confisquer le bénéfice de cette insurrection populaire, où ils n'ont versé aucune goutte de sang, hormis le sang des manifestants qui ont été tués par leurs balles. A priori donc, aucun des membres des forces armées ayant participé à ces tueries ou appartenant à la chaîne de commandement ne devrait participer au comité civil de transition, ce qui exclut de facto le général Diendéré et tous les officiers qui sont sous ses ordres. Alors, il faut savoir que l'article ayant donc été vraisemblablement écrit samedi, l'état-major de l'armée s'était pas encore mis d'accord sur qui allait chapeauter ce processus de transition, et donc c'était plutôt ce Diendéré qui était visé. Bon, finalement, ça n'a pas été lui, mais ça vaut largement pour ce lieutenant-colonel Zida, qui lui aussi était complètement dans la chaîne de commandement dans la chaîne de commandement de l'armée à ce moment-là, quoi. Le quatrième constat, c'est que le départ de Compaoré est pour l'instant un départ théorique sur le papier, fait à coup de communiqué, puisque personne ne sait réellement où il est. Alors ça, pareil, hein, c'était 24 heures après son départ en avion, quoi. Avec qui et selon quelles intentions, même si les rumeurs et informations véhiculées le localisent en Côte d'Ivoire. Bon, entre-temps, on est un peu certain qu'il est en Côte d'Ivoire. Il en est de même pour ses principaux lieutenants, en l'occurrence François. Alors François, c'est François Compaoré, le frère du président, Diendéré Bassolé, qui, même restant dans l'ombre, ne demeure pas moins à la tête des forces, disposant de puissants moyens d'action. Nous devons aussi marquer une certaine méfiance vis-à-vis de certains pays voisins, notamment le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, qui sont les refuges naturels de l'ex-président en fuite et de ses fidèles, qui gardent un silence complice. Nous pensons particulièrement à la Côte d'Ivoire et sa réserve d'ex-rebelles hébergés et gâtés par le binôme Compaoré-Diendéré, qui est une source d'inquiétude pour notre transition démocratique, d'où pourraient venir rapidement des actes d'ingérence, voire pire. Alors la Côte d'Ivoire, on se souvient, il y a 2 ans, je dirais, des élections qui ont été remportées, on ne sait pas par qui, réellement, puisque à la fin des élections, les deux candidats s'étaient déclarés vainqueurs, donc il s'agissait d'une part de celui qui avait été président depuis une dizaine d'années, qui était Laurent Gbagbo, et d'autre part de celui qui est président aujourd'hui, Alassane Ouattara. À ce moment-là, Compaoré était complètement dans le camp de Ouattara, et tout ça avec une rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire qui avait été fomentée et armée par le Burkina, et sans doute derrière le Burkina aussi par la France, pour virer Gbagbo. Donc à la fin, la morale de tout ça, c'est que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est les amis de Gbagbo qui sont au pouvoir, et donc là le journaliste s'inquiète un peu de ce qu'il risque de faire dans les temps qui viennent. Et il en est de même, nous dit le journaliste, pour la France, qui, à la surprise de tous, a fait décoller hier, donc vendredi en réalité, un avion d'Air France sans crier gare, alors que notre espace aérien était fermé aux autres compagnies, et sans que l'on sache qui se trouvait réellement à bord de l'avion. Alors là, il fait allusion à au départ du président. Entre-temps, on en sait un petit peu plus. Là, pareil, au moment où il écrivait, c'était la confusion, mais on en sait un petit peu plus. En particulier parce que notre cher président, le nôtre, s'est un petit peu exprimé sur le sujet. Bon, juste un petit peu. Alors, il faut quand même savoir que le Burkina étant une nation amie, un pays africain, une ex-colonie, etc., etc., bien sûr que la France y est présente, surprésente et ultra-présente. Elle n'y est pas tant que ça présente par le nombre de militaires français qui sont là-bas, mais il y en a peut-être quand même 2 à 300, dont une base aérienne. Et donc, au moment où Compaoré décidait de partir, la France, qui se désolidarisait de lui, comme ça, un petit peu du bout des lèvres, mais quand même, on se souvient que dans la deuxième moitié de la semaine dernière, donc quand vraiment ça a commencé à être visible qu'il parte, on se souvient que Laurent Fabius a fait des déclarations où il appelait toutes les parties à la retenue, ce qui voulait dire en gros, oulala, les révolutionnaires, attention, il faudrait pas non plus faire la révolution, parce que ça, quand même, c'est violent, et la violence, chacun sait que c'est mal, vous ferez mieux de demander poliment à ce que peut-être il veut bien dégager, mais quant à toi, Blaise, si tu pouvais éviter de buter trop de manifestants, ça serait quand même plutôt cool. Et en réalité, ce Blaise Compaoré, qui était un des piliers de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest depuis longtemps, c'est quand même vrai que depuis quelques années, et ça en fait déjà à l'époque de Sarkozy, la France commençait à non pas le lâcher, mais être un petit peu moins enthousiaste à le protéger. En réalité, en particulier depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, aussi parce que du coup la relève était assurée pour que la France ait quelqu'un de solide et de fiable dans le coin. Et qu'au pire, à ce moment-là, si Compaoré dégageait, bon, dans tous les cas, la France va essayer de mettre quelqu'un à ses ordres, mais qu'au pire, si ça foirait un petit peu, eh ben, il y avait quand même autre chose sous la main. Et puis Compaoré, ça commençait sérieusement à faire tâche, quoi. C'est ça, c'est 27 ans de présidence, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Et puis cette histoire de, donc là, enfin voilà, on a bien suivi que c'est ce qui a fait que les gens se sont énervés, qu'il y a eu des manifestations et finalement qu'ils l'ont dégagé, c'est parce qu'il essayait de faire réviser la Constitution de façon à se présenter encore. Du coup, il y avait un article dans la Constitution qui disait qu'il avait droit, enfin que n'importe quel président avait droit uniquement à 2 mandats successifs. Il faut savoir que cette Constitution a été votée quand il en était déjà à son 3e mandat. Mais que, du coup, comme la Constitution était nouvelle, elle n'était pas rétroactive, donc on comptait les mandats à partir du mandat suivant. Donc là-dessus, il en a encore fait 2. Donc là on était au 5e.
Il pensait pas tenir jusque-là, ceci dit.
Et ben oui, c'est ça, c'est aussi qu'il se fait vieux et qu'à chaque fois il se dit je gagne encore un mandat, peut-être je suis président à vie. Et là, du coup, il s'agissait de modifier la Constitution pour lui permettre de faire. Alors, je me rappelle même plus ce que c'était le projet, mais si c'était de décider que finalement c'était 3 mandats, mais ce qui aurait permis de faire 3 mandats supplémentaires, hein, on est bien d'accord. C'est que là, il pouvait vivre centenaire et rester président à vie. Il faut savoir que les élections au Burkina sont relativement honnêtes. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un seul candidat qui bénéficie de tous les moyens d'information, que les autres candidats, ils peuvent toujours renéoter des tracts dans leur grange et essayer de les distribuer. Mais radio et télé, en tout cas, sont des trucs nationaux. Pas la presse écrite, mais il y a aussi quand même plein de gens qui lisent pas au Burkina. Et du coup, la radio et la télé sont les plus importantes. Et puis quand même, dans les campagnes au Burkina, les gens ont tendance à respecter l'autorité en place et du coup à revoter pour l'ancien président, un peu quel qu'il soit. Et du coup, c'est surtout des villes qui est venue la contestation. Alors, j'en étais où ? Moi, j'en étais à la France. La France qui faisait donc qui. Alors, c'est ça, au moment où ça partait vraiment en vrille, la France quand même si d'un côté elle saluait un peu le nouveau pouvoir, puisque de toute façon à ce moment c'est, enfin le nouveau pouvoir, en tout cas on savait pas encore et on sait toujours pas qui sera le nouveau pouvoir, mais bon, la France préférait être du côté des vainqueurs, tout en ne lâchant pas non plus la personne de son protégé. Et ça, c'est aussi une question de crédibilité de la France vis-à-vis d'autres chefs d'État africains qui sont un peu ses alliés, et donc entre autres un peu sous sa protection. Il n'y aurait pas fallu que Compaoré se fasse tailler en pièces par les manifestants. Et donc la France a envoyé. Alors d'abord, il semble qu'il y ait d'abord eu un convoi qui soit parti pour l'emmener en direction de la Côte d'Ivoire. Que ce convoi ait capté à un moment une grosse troupe de gens pas contents qui risquaient de reconnaître le président et de lui faire un mauvais parti. Et donc à ce moment-là, il y a plutôt un hélicoptère qui a décollé d'une base française à Ouaga et qui est venu le chercher et qui l'a emmené en Côte d'Ivoire. Alors je reprends mon article. Toute cette confusion démontre que ce qui se passe en coulisses est au moins aussi important que ce qui est visible et que selon toute vraisemblance, le régime de Blaise Compaoré continue de tirer certaines ficelles du jeu qui est en train de se jouer au Burkina Faso, sans qu'on puisse encore savoir qui parmi les acteurs en présence est la marionnette de qui. Les nouvelles concernant la fuite des dignitaires du régime et de leurs familles vers tous les pays limitrophes, alors que nos frontières sont fermées, donnent la mesure des complicités dont ceux-ci disposent au sein de l'appareil d'État, de l'armée et de la police. Le dernier constat, c'est que les puissances internationales présentes dans notre pays, ainsi que les organisations sous-régionales, donc quand on dit sous-régional, ça veut essentiellement dire la CDAO, collectif d'État, je sais pas quoi, d'Afrique de l'Ouest. Certainement pas collectif, hein, mais... Donc, les puissances internationales présentes dans nos pays, ainsi que les organisations sous-régionales, semblent quelque peu embarrassées par la disparition subite d'un de leurs meilleurs alliés, d'où ce silence de plomb et ses émissaires envoyés tardivement lorsque la messe est dite. Cette disparition bouleverse leur plan stratégique et les oblige à revoir leur propre dispositif politico-militaire dans la région, alors que sur le terrain des opérations, ces puissances étrangères peinent à obtenir des résultats définitifs. Il ne faut pas s'y tromper, dans ce contexte, les enjeux démocratiques passent derrière les considérations géostratégiques et ces puissances internationales, au premier rang desquelles figure la France, préféreront toujours mieux discuter avec des militaires qu'avec des civils, ce que doivent déjà faire leurs nombreux attachés et conseillers militaires au sein de nos différents états-majors. Avec ou sans Blaise Compaoré, le Burkina Faso reste le terrain de jeu de ces puissances qui ont vendu des tonnes d'armes à ce régime et qui ont des intérêts à défendre bien avant d'y avoir des idéaux à porter. Je m'arrête là pour la lecture de cet article. Le reste, c'est essentiellement des propositions pour la suite. Bon, ce qui fait que là, ma lecture à moi termine sur une note un peu négative, mais c'est pas le ton de l'article général. Hein. C'est qu'après, l'auteur propose comment on va faire pour aller plus loin. Et du coup, effectivement, affaire à suivre. Hein, pour l'instant, c'est l'armée au pouvoir, avec un discours fleuri de bonnes intentions. Et disons qu'on peut pas être sûr à 100% que ce discours soit faux, mais on a quand même quelques petits éléments qui ne nous rendent pas spécialement optimistes.
Eh bien, ce canuaire faux touche à sa fin et on va conclure par un petit agenda. Alors, agenda manif hein, quand même. Rassemblement demain à 18h, place du Pont. Alors, c'est un rassemblement contre les violences policières suite à la mort de Rémi Fraisse. Un peu plus tôt dans la journée de demain, à midi, se tiendra à l'université de Bron une assemblée générale dans l'amphi E. J'imagine, c'est pas précisé, mais pour discuter et s'organiser pour la manif ainsi que pour les suites de toutes ces manifs qui se passent par rapport à ce truc-là. Et alors samedi 15 novembre à 14h place des Terreaux, grosse manif pour l'arrêt immédiat des expulsions, alors que ce soit les expulsions de logements, squats et terrains ou les expulsions de sans-papes. La manif est appelée par tout un tas d'orgas, d'assos ou collectifs de la région lyonnaise, mais il y a aussi des gens de Valence, de Grenoble, tout un tas de gens qui vont venir à Lyon pour protester. Et du coup, l'appel exige, et là je vais lire les revendications, l'ouverture de structures d'hébergement d'urgence et l'amélioration des conditions d'accueil sans conditions d'accès, été comme hiver, l'arrêt des expulsions sans relogement pour tout type d'habitation, des fermetures des places d'hébergement et des coupure de fluide, eau, électricité, gaz, l'arrêt du harcèlement de la part des administrations et bailleurs sociaux sur les locataires et les usagers, contentieux, lettres menaçantes, etc., etc., et le gel des loyers impayés. Une application de la loi DALO et ALUR, alors loi DALO c'est droit au logement opposable, ALUR je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un truc par rapport à l'hébergement. Ah, ou c'est peut-être celle qui dit le nombre de logements sociaux par ville. Bref, on ne sait pas, renseignez-vous. C'est écrit ALUR. La réquisition des logements vides, la construction massive de logements réellement sociaux, alors qu'on appelle PLAI pour prêts locatifs aidés d'intégration, et la baisse des loyers. Arrêt de la criminalisation de la migration et de la criminalisation des actions de solidarité avec les migrants. La régularisation de tous et toutes les sans-papiers et l'arrêt des expulsions du territoire français. Et pour finir, un logement pérenne et décent pour tous et toutes. Voilà, du coup c'est... voilà, moi je trouve ça assez chouette qu'il y ait une manif qui réunisse enfin... les questions de migration et de logement, parce que mine de rien, sur plein de points, c'est quand même intimement lié. Du coup, voilà, samedi 15 novembre à 14h, place des Terreaux, et demain, rassemblement à 18h, place du Pont.
Eh ben, on a encore terminé à l'avance, hein.
Et oui. On n'était que deux ce soir.
Et ouais, c'est ça. Alors ben, on va vous laisser un petit peu avec de la musique, pas celle-là, mais plutôt celle-là. Merde, pauvre de vous. En attendant, l'émission Ultime Noire qui viendra vous sauver. Ça devrait être, si tout va bien, dans 13 minutes.
Merci de nous avoir écoutés.
Allez, ciao.
Bachar Mahalif. Ma Khalifé sur Radio.
Ah bah non, mais là, vous ne pouvez pas vous écouter. Alors, si vous voulez dire comment ça s'appelle, oui, ça s'appelle Blood Red Throne. Blood Red Throne. Ah ouais. Allez. Et ben cette fois-ci, ciao.